Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Pascal Cine pour ce magazine hebdomadaire d'Escale. Cette semaine, Escale vous propose une rencontre avec Michel Forst. Depuis 5 ans, ce Français est le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. En octobre, Michel Forst a présenté à l'Assemblée générale de l'ONU son dernier rapport, un rapport dans lequel il souligne le problème de l'impunité dont bénéficient ceux qui portent atteinte aux droits fondamentaux des défenseurs et défenseuses des droits de l'homme, ainsi que les difficultés rencontrées pour y mettre un terme. Michel Forst, le défenseur des défenseurs, c'est notre magazine Escale de la semaine. Michel Forst, bonjour.
Bonjour.
Mardi dernier, vous avez présenté votre dernier rapport devant l'Assemblée générale des Nations Unies et vous avez souligné que l'impunité face aux crimes commis contre les défenseurs des droits de l'homme prévalait dans ce monde. Quelle est la tendance aujourd'hui ?
Écoutez, malheureusement, c'est une tendance que j'ai constatée dans mes visites officielles à l'invitation des États, mais également dans un grand nombre de visites non officielles à l'invitation d'ambassades ou d'organisations gouvernementales. Et le principal message que j'entends de la part des organisations de la société civile et des défenseurs, c'est que malheureusement, quand ils sont l'objet d'attaques, de menaces, ou parfois pire, et qu'ils vont à la police ou qu'ils vont devant la justice, ils sont soit pas entendus, soit rejetés, soit leur dossier est enterré. Et donc on a le sentiment qu'à l'heure actuelle, l'impunité prévaut, y compris pour les crimes les plus graves. Alors évidemment, on a en tête des noms un peu fameux comme Khashoggi en Turquie, le journaliste assassiné, ou des noms comme Marielle Franco au Brésil, bien connu, ou la journaliste à Malte qui a été également assassinée, pour lesquels on n'a pas de résultats, mais ils sont des milliers, des dizaines de milliers dans le monde à attendre la justice. Et ce rapport a été largement inspiré par leur voix, avec l'idée que mon mandat, qui est un mandat de coopération avec les États, pourrait proposer des solutions et des pistes novatrices. Et c'est la raison pour laquelle dans ce rapport, on trouvera non seulement un état de la situation dans le monde, mais également un grand nombre de recommandations, y compris un ensemble de 6 principes qui sont là pour guider un travail futur de recherche sur la question de la lutte contre l'impunité.
Vous avez cité des exemples de meurtres, d'assassinats. Est-ce que les abus commis à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme se limitent à ces assassinats ?
Non, bien sûr, la situation des défenseurs est dans le monde de plus en plus préoccupante. Ils sont d'abord l'objet de campagnes de diffamation massives, y compris dans les pays européens, malheureusement d'hommes politiques, de parlementaires, parfois à un haut niveau, qui les accusent d'être liés au terrorisme ou d'être contre leur pays ou d'être anti-développement ou anti-progrès. Et ces campagnes de diffamation se traduisent ensuite par des actes plus graves, des arrestations arbitraires, des détentions de longue durée. Et puis évidemment toute la cohorte de différentes méthodes utilisées par les régimes les plus répressifs pour bâillonner les défenseurs. Ce qui m'a frappé néanmoins dans le paysage du monde sur les défenseurs, c'est que les principaux acteurs ne sont pas que les gouvernements. Et c'est une chose qui est un peu nouvelle, c'est que de plus en plus d'acteurs non étatiques apparaissent. On a bien évidemment les mafias, le crime organisé, les cartels de la drogue dans beaucoup de pays d'Amérique latine, Amérique centrale, aux Philippines, mais aussi les entreprises internationales qui ne reconnaissent pas leur responsabilité de protéger et leur responsabilité de mener un travail d'investigation quand ils sont avertis que leur compagnie commet également des atteintes graves aux droits humains.
Parmi les obstacles que vous avez relevés, vous notez surtout une absence de volonté politique des États. Comment expliquez-vous le fait que des gouvernements qui sont rassemblés dans le cadre de cette Assemblée générale n'agissent pas ?
C'est effectivement un constat qui est d'ailleurs partagé par d'autres États. Donc un grand nombre de délégations à l'Assemblée générale ont également noté ce point de vue-là et ont constaté elles-mêmes dans leurs contacts avec leurs partenaires à l'étranger qu'il y a un manque de volonté politique de la part des États et qui s'explique de plusieurs manières. Il y a d'abord une absence de volonté politique institutionnelle dans les pays dans lesquels l'État de droit n'est pas à la hauteur des attentes. Donc le système judiciaire n'est pas suffisamment sophistiqué pour permettre d'aller plus loin dans la lutte contre l'impunité. Mais parfois ce sont de vrais blocages institutionnels qui montrent une vraie absence de volonté politique, notamment quand les crimes sont à l'instigation ou en tout cas sont inspirés par ce qu'on appelle les puissants. Les puissants qui sont les entreprises internationales, mais aussi une collusion souvent avec des acteurs politiques, des ministres, des hommes politiques, des parlementaires. Et cette collusion fait que, bien évidemment, les systèmes judiciaires sont peu enclins à mener des enquêtes allant jusqu'au bout. Et souvent, on arrête les assassins, donc les meurtriers, dans le cas de Mariel Franco au Brésil, dans d'autres cas également, Bertha Cáceres également. On arrête les meurtriers. En Arabie Saoudite, on a arrêté ceux qui étaient directement responsables de la mort de Khashoggi, mais ce qu'on appelle en anglais les masterminds, donc les auteurs intellectuels de ces attaques, hein, c'est-à-dire les puissants, ceux qui ont commandité les actes, sont rarement inquiétés. Et cette absence de volonté politique se traduit par le fait qu'effectivement, dès lors qu'on parle aux puissants, dès lors qu'on met en cause les puissants, alors il y a des tentatives pour eux d'essayer de bloquer le système judiciaire.
Est-ce normal, lorsqu'on est témoin d'une violation des droits de l'homme, d'une attaque contre un défenseur des droits de l'homme, d'avoir peur de rapporter ces faits aux autorités, à la police?
Oui, je reçois d'ailleurs un grand nombre de communications anonymes, ou plutôt les gens me parlent, mais me demandent de ne pas nommer leur nom, parce qu'ils savent que si leur nom est nommé, alors il y aura forcément des représailles. Et la question des représailles est aussi liée directement à la question de l'impunité. Et le fait qu'une chape de plomb pèse sur ceux qui veulent témoigner, sur les lanceurs d'alerte, ceux qui parlent aux Nations Unies, c'est un phénomène qu'on rencontre et qui est gravissime à l'heure actuelle.
Dans votre rapport, vous rappelez que la protection des défenseurs des droits de l'homme, c'est notamment un droit, mais c'est aussi une obligation des États membres. Quelle est la réaction de ces États lorsque vous leur rappelez cette obligation à laquelle ils se sont engagés?
Alors les États, je crois, ont bien compris le fait que mon mandat, parmi d'autres mandats, est un mandat de coopération technique. Je suis là pour parler aux États, non pas pour les nommer, pour les dénoncer et pour publiquement dénoncer leurs agissements, mais pour leur parler positivement. Et ils écoutent souvent ce que je leur dis. Les recommandations que je fais sont souvent suivies des faits, pas toujours, mais souvent. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles je peux visiter les pays parfois les plus dangereux pour les défenseurs. Mais c'est vrai que dans le pays, une fois dans le pays, et quand je parle au système judiciaire, je vois bien les blocages institutionnels, les blocages mécaniques, et le fait qu'il nous manque à l'heure actuelle des instruments nouveaux pour lutter contre l'impunité. Par exemple, on a des indicateurs bien développés par les Nations Unies, par le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, sur ce qu'on appelle l'état de droit. Il y a des indicateurs très clairs qui permettent de mesurer l'avancement d'un pays dans l'état de droit. Mais sur la question de l'impunité, on manque d'informations, on manque de données. Et c'est la raison pour laquelle je travaille avec un institut de recherche pour proposer un instrument nouveau qui sera des indicateurs permettant de mesurer de manière équitable tous les États avec les mêmes indicateurs pour mesurer l'effectivité de leur combat contre l'impunité. Quand on va par exemple dans des pays d'Amérique latine et qu'on vous dit que le taux de réussite est de 57%, on regarde un peu dans le détail et je cherche dans les chiffres et je m'aperçois qu'on additionne des carottes et des pommes, des enquêtes qui ont été lancées, une dénonciation, un présumé coupable traduit devant la justice, une personne condamnée, bref, on mélange tout et donc on a des résultats qui sont très élevés. Mais dans la pratique, le taux de réussite est très faible. Parfois dans des pays, on a un taux de 98% d'ineffectivité, montrant que le système judiciaire ne fonctionne pas réellement. Et ce qui est grave, c'est que dans ces pays, on voit la lutte contre les homicides gagner du terrain, c'est-à-dire qu'on a un déclin très important du nombre d'homicides et dans le même temps un nombre important d'assassinats de défenseurs, ce qui montre qu'il y a une vraie problématique politique à être posée. Est-on capable de lutter également de la même manière contre les homicides et contre les meurtres de défenseurs?
Dans votre rapport, comme vous l'avez souligné, vous mettez en avant d'abord votre esprit de coopération et à cet égard, vous présentez des principes directeurs, des recommandations aux États. Est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-unes qui sont parmi les plus importantes?
Alors, ces principes directeurs sont là d'abord pour guider des recherches futures. Ce sont des principes assez généraux. Il y en a 6 à l'heure actuelle qui vont promouvoir une approche des droits de l'homme dans la lutte contre l'impunité, c'est-à-dire pas uniquement une approche judiciaire, une approche prenant en compte la qualité des victimes, le fait que c'est une femme ou un homme, paysan, une communauté locale, quelqu'un qui ne parle pas la langue dominante. Et donc une attention portée à l'approche par les droits de la réponse judiciaire est un des premiers principes que je promeux. Un deuxième principe, on ne va pas les énumérer tous aujourd'hui, mais c'est la question de l'appropriation par le système judiciaire de l'ensemble de ces principes. Faire en sorte que cette approche par les droits soit promue et que le système judiciaire, lui, soit également formé à cette approche par les droits. De telle sorte que les enquêteurs, les policiers, aient une autre vision des enquêtes. Pourquoi ? Parce que les enquêtes dirigées à l'encontre d'auteurs de crimes contre les défenseurs sont très particulières. Parce qu'on sait qu'il y a toujours derrière une connotation politique. Et que donc, au-delà de la recherche de l'auteur direct de l'assassinat, il faut remonter plus loin dans la chaîne de commandement. Et dès le début, montrer qu'on ne s'arrêtera pas uniquement à l'arrestation des meurtriers, mais qu'on ira rechercher les auteurs intellectuels.
Aujourd'hui, on note particulièrement une forme d'intimidation des personnes qui défendent les droits de l'homme, à travers notamment les médias sociaux ou les discours de haine qu'a dénoncé le secrétaire général de l'ONU. Quel message avez-vous pour les défenseurs des droits de l'homme, grands ou moins connus, qui ont peur de s'exprimer publiquement, un droit qui, fondamental qui leur est pourtant garanti?
Un droit qui est évidemment garanti par les instruments internationaux, à commencer par la Déclaration universelle des droits de l'homme et aussi d'autres instruments que les États ont ratifiés. Et dès lors que les États ont ratifié les instruments, ils sont obligés de les mettre en œuvre. Et on voit à l'heure actuelle effectivement que ces États ne mettent pas ça en œuvre. Et c'est un sujet préoccupant qui monte d'ailleurs de voir les militants qui utilisent les outils sociaux, une page Facebook, un compte Twitter, des images sur Instagram, qui en fait essayent simplement de relayer une information, qui tweetent un lien vers un discours politique et qui se font immédiatement interpeller par les autorités qui surveillent attentivement le monde des médias sociaux. C'est la raison pour laquelle mes collègues et moi-même, rapporteurs spéciaux, nous parlons à l'heure actuelle aux grandes entreprises comme Google, comme Microsoft, comme Twitter, comme Facebook, pour leur dire attention, il y a peut-être quelque chose qui mériterait d'être mieux contrôlé, c'est-à-dire la manière dont les ennemis des défenseurs utilisent vos outils pour menacer directement les utilisateurs d'outils sociaux. Et ce qui me frappe, c'est le fait qu'on a toute une nouvelle génération de défenseurs qu'on appelle les jeunes défenseurs, les enfants défenseurs, qui sont les plus frappés parce que une génération qui utilise, comme autrefois le papier maintenant, leur téléphone mobile et qui en fait prennent des images, relayent des tweets. Donc parce qu'ils utilisent ces outils sociaux, sont plus menacés à l'heure actuelle que leurs aînés qui n'utilisent peut-être pas de la même manière ces outils sociaux. D'où une attention accrue à la question des jeunes défenseurs.
D'après vous, est-ce que les entreprises des médias sociaux sont réceptives ou plus réceptives à vos préoccupations?
Je les trouve très réceptives. Alors on se heurte à de grands défis, bien sûr, qui est qu'on a à l'heure actuelle des milliards d'utilisateurs. Et par conséquent, pour les entreprises, c'est un défi que de pouvoir surveiller ou contrôler l'ensemble du trafic sur les médias sociaux. Et en même temps, on voit que certaines d'entre elles, on ne va pas les nommer, ont déjà pris des mesures permettant au moins aux utilisateurs d'anonymiser leurs comptes, par exemple, d'être moins facilement repérables. Ou bien dès lors qu'on voit des campagnes massives menées par Twitter ou sur Facebook par des faux agents, c'est-à-dire des faux noms, qui en fait vont décliner les mêmes identités par dizaines de milliers et donc attaquer un groupement ou des ONG, eh bien déjà à l'heure actuelle, Facebook, Twitter arrivent à mieux contrôler ces outils. Mais il faut aller plus loin et on est constamment dans le dilemme de la liberté d'expression qui est garantie et en même temps du contrôle de ceux qui en fait utilisent malheureusement la liberté d'expression pour menacer physiquement les défenseurs.
Le principe cardinal du travail d'un rapporteur spécial des Nations Unies, c'est son indépendance. De nombreux rapporteurs spéciaux ont été pris à partie publiquement, par des États membres, mais aussi par d'autres acteurs. Quel est votre message au grand public qui ne connaît pas bien le travail de rapporteur spécial et pourquoi est-ce que c'est si important pour vous d'être indépendant dans le système des Nations Unies?
Alors d'abord parce que le système des Nations Unies est un système interétatique, un système intergouvernemental, et par contre ce sont les États qui se parlent entre eux. Et la mission qui nous a été confiée par le Conseil des droits de l'homme, c'est d'être ce qu'on dit les yeux et les oreilles du Conseil. Des experts indépendants qui ne sont pas payés par les Nations Unies et qui par conséquent ont la possibilité de dire la vérité à tous, y compris aux Nations Unies. Et parfois nous sommes sévères vis-à-vis du système des Nations Unies. Je rappelle le récent rapport d'Enes Calamar, la rapporteure spéciale sur les exécutions sommaires et arbitraires, qui dans le rapport sur le meurtre de Khashoggi dans le consulat en Turquie, a aussi mis en cause, au fond, le secrétaire général des Nations Unies en disant que peut-être il aurait dû ou il pourrait encore mettre en place une commission ad hoc d'enquête pour enquêter sur le crime de Khashoggi.
Michel Forst, merci.
Merci.
C'est la fin de notre rencontre avec Michel Forst, le défenseur des défenseurs des droits de l'homme, un magazine d'ONU Info présenté par Pascal Sim, avec à la production Carlos Macias et sur une musique de Mohamed Najem. Merci pour votre écoute et à très bientôt.